Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Eric Manilakiza avec vous dans Sporama. Sporama, votre programme sportif de tous les lundis pour parler des activités sportives sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Je suis en ligne avec nos consultants sportifs, Amine Birouk, qui se trouve au Maroc. Amine, bonsoir.
Eric, bonsoir à tous.
Jules Valentin Gouë, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Tu as un coup de sifflet pour nous?
Ça peut venir.
Ça peut venir. Merci Jules. Élisée Nkoupatine, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à tous les amis sportifs de VO Africa.
Il y a aussi mon cousin Amédine Si. Amédine? Amédine?
Oui, Eric, je vous entends très bien. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Vous êtes plutôt le cousin de Amine, n'est-ce pas?
Oui, c'est mon cousin. C'est un Marocain, entre Marocain et Sénégalais. Et c'est... Comme ça.
Voilà. Amine, je vais commencer avec toi. Nous avons vécu un week-end plutôt calme du point de vue à football en Afrique, mais... La semaine prochaine sera bien chargée avec les quarts de finale aller et Coupe africaine des clubs.
Tout à fait, avec de multiples confrontations intéressantes, notamment Champions League, où il y aura bien évidemment le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, qui sera en déplacement à Dar es Salaam pour affronter l'outsider de la compétition, l'équipe tanzanienne de Simba. Une rencontre qui se déroulera à guichet fermé, souvent devant 70 000 spectateurs. Le Wydad de Casablanca, qui se déplace quasiment au grand complet, seul manquerait à l'appel à partir de demain le buteur sénégalais Sambo Junior, qui a été véritablement d'une très grande aide à cette équipe du Wydad, puisque c'est le buteur du club casablancais dans cette compétition, mais également dans le championnat marocain. Autre affiche à prendre en conséquence, le remake du quart de finale déjà la saison dernière entre l'Ali d'Égypte, véritable miraculé de la compétition, finaliste la saison dernière, 10 fois vainqueur de la Champions League, et le Raja de Casablanca, le Raja qui a survolé la phase éliminatoire avec 16 points pris sur 18 possibles, un Raja qui se présentera également avec ses meilleurs éléments, mais il semble un ton en dessous par rapport à l'équipe égyptienne qui, rappelons-le, avait brillé il y a moins de 2 mois lors de la dernière Coupe du Monde des clubs disputée au Maroc. Troisième affiche à prendre en compte, le duel entre un derby maghrébin entre l'équipe algérienne de Belouizdad et l'Espérance de Tunis, et a priori ce sont les Tunisiens qui partent légèrement avec la faveur des pronostics, et puis nous terminerons avec le gros favori, le gros épouvantail sud-africain, à savoir les Mamelodi Sundowns, qui seront bien évidemment, qui ne seront pas la fête lors de leur prochaine sortie face à la JS Kabylie. Mais attention, les Algériens ont été poussifs pendant les rencontres en déplacement, mais souvent redoutables chez eux. Donc, une petite pièce sur l'équipe algérienne au match aller, en attendant bien évidemment l'affiche du match retour, où les Sud-Africains pourraient être largement au-dessus du lot. Voilà ce qui concerne la Champions League. En Coupe de la CAF, il y aura évidemment un derby maghrébin entre l'USMA Alger et l'AS FAR du Maroc, rencontre à suivre qui se déroulera sur la pelouse du stade 5 juillet. Et puis, autre affiche à mettre en évidence, celle qui mettra les Tunisiens de l'US Monastir contre l'ASEC d'Abidjan, une rencontre a priori équilibrée. Donc, on verra dans quelle mesure les Ivoiriens qui retournent qui n'ont pas été à pareil fait en compétition continentale depuis longtemps vont essayer de mettre tous les atouts de leur côté face à l'outsider tunisien.
Merci Amine pour toutes ces précisions. Jules, Valentin, vous avez suivi aussi cette compétition. Un mot à dire?
Oui, bien sûr. Et disons que cette compétition cette année nous donne un casting vraiment satisfaisant, notamment au niveau de la Ligue des Champions, où tous les gros bras sont là, et Amine en a parlé tout à l'heure, tous les gros bras, notamment ceux de l'Afrique du Nord et le Mamelodi Sundowns. Et nous avons à côté aussi une puissance émergente du football, la Tanzanie, qui est bien représentée par les Simba, qui a fait le plus grand carton lors de la phase de poule en battant le Oroya, qui est pourtant une référence, par 7-0, et surtout en nous faisant revivre l'ambiance des coupes des clubs devant un public merveilleux et massif qui a poussé son équipe. Donc, ce qui fait un peu penser qu'il ne faut pas oublier de sacrifier le football sur le terrain et disons que. Et en mettant de côté la passion qui l'entoure. Et donc, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Et je crois que nous aurons de bonnes rencontres vraiment et passionnantes pendant ces quarts de finale.
Ahmedine, lorsque vous regardez ces matchs, est-ce que vous pensez qu'ils suscitent un enthousiasme quelconque sur le continent?
Tout à fait, Eric. D'abord, c'est la crème hein, du football africain au niveau des clubs qui se sont qualifiés quand même pour ces quarts de finale de la, que ce soit en Ligue africaine des champions, que ce soit en Coupe de la CAF, c'est la crème du football hein, africain, nouveau club. Puisqu'on note, comme Amine et Jules l'ont dit, hein, il y a beaucoup de clubs maghrébins, c'est vrai, les Marocains qui dominent un peu le football au niveau des clubs et les Égyptiens, mais on a noté aussi les Algériens qui ont deux clubs qualifiés comme les Marocains. Mais la surprise, ce sont les Tanzaniens. Les Tanzaniens ont réussi quand même à qualifier deux clubs, que ce soit Simba en Ligue des Champions. Je l'ai dit tantôt, qui a créé la sensation en se qualifiant au nez et à la barbe du Oroya de Conakry. Ce club Simba, quand il joue, le stade est plein à craquer. Ils ont mis les moyens pour recruter les bons joueurs qui se trouvent au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est des clubs qui sont en train quand même de faire des efforts et ça les fruits sont en train de récolter les fruits de ce travail. Donc, grosso modo, je dirais que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe de la CAF, avec aussi en Coupe de la CAF, le retour de l'ASEC Mimosa d'Abidjan. L'ASEC a été une très bonne équipe qui a formé beaucoup de bons joueurs qui étaient en léthargie, mais qui sont revenus et qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Moi, je dirais que les amateurs du football sont gâtés quand même avec des affiches alléchantes pour que ce soit les quarts de finale de la Ligue des Champions et les quarts de finale de la Coupe de la CAF, Eric.
Élisée, comment vous voyez les quarts de finale pour le week-end prochain en Afrique?
Bon, on n'a rien que de très belles affiches. Hein. Je ne vais pas redire encore tout ce que Amine Birouk a dit. Et ce qui retient les attentions, c'est très bien là. Et on aura quand même à assister à une très belle affiche en Coupe de la CAF hein, entre un club marocain et un club algérien, notamment le FC Alger contre Asfa, les militaires d'Asfa, compte tenu de la situation politique qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Vous imaginez, ces deux équipes vont fouler le sol des deux pays différents, alors que lors du dernier championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux, le Maroc n'a pas pu rallier l'Algérie pour faute de vol direct. Vous imaginez que dans peu de temps, l'Algérie va organiser la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans et que le Maroc va participer, encore que le Maroc va... ces deux pays sont en train de discuter la prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Vous imaginez ce que le football peut créer comme sensation. Donc, on va assister à cette belle affiche. La SEC d'Abidjan, le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest, vous imaginez, Oroya, représentait finalement quand même l'Afrique de l'Ouest en Ligue des Champions, sans pour autant aller très loin. La SEC, une fois de retour sur le continent, qui avait remporté la Ligue des Champions, c'était en 1998, face aux Tanzaniens de Young Africans. Et le dernier club ouest-africain à avoir remporté la Ligue des Champions, c'est bien sûr les Ghanéens d'Assofoc en 2001. Vous imaginez, ça fait très 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 longtemps qu'un club de l'Afrique de l'Est a remporté une Coupe d'Afrique des clubs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Donc la SEC a encore la chance de réécrire l'histoire de l'Afrique de l'Ouest en interclub de la CAF. Donc il faudra battre d'abord les Tunisiens de l'US Monasti, le football tanzanien qui ne commence pas se faire remarquer sur le continent africain, surtout au sud du Sahara, avec, vous imaginez, en Afrique du sud du Sahara, un débit qui va remplir un stade de plus de 50 000 places.
c'était qui est entre le Young Africans et Sima. Sima qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Young Africans qui jouera ses quarts de finale contre les Nigériens de Rivers United. Ça montre combien de fois le football qui quitte l'Afrique du Sud-Sahara commence par se réorganiser. C'est tout le mal qu'on souhaite à ces clubs-là. Sinon, seule l'Afrique du Sud représente dignement le football de cette zone-là. La RDC, qui n'a pas été du tout performante cette saison, avec l'élimination de tous ses clubs engagés en intercoupe de la CAF. Donc, on assistera à de très belles affiches en Ligue des Champions. On verra quand même le Mamelodi Sundowns, l'éternel Mamelodi Sundowns qui, depuis 10 ans, est toujours qualifié pour les quarts de finale. On aura cette belle affiche. Et surtout, à la Ligue du Caire, le club le plus titré du continent contre le Raja de Casablanca qui a remporté ce trophée il y a de cela 4 ans. Donc, vous imaginez, rien que de belles affiches qui nous fait aussi inspirer la Ligue européenne des champions avec de très belles affiches aussi.
Effectivement, Élisée, demain, nous commençons à regarder la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. L'Italie détient la palme du suspense avant le choc entre Naples et l'AS Milan. Élisée.
Oui, bien évidemment, surtout l'Inter de Milan qui a fait forte sensation en allant battre les Portugais de Benfica. Pendant qu'on s'y attendait moins, puisque le club italien enchaîne des contre-performances en championnat. La dernière, encore, c'était le vendredi dernier, accroché à domicile. Vous imaginez l'Inter de Milan qui peine en championnat, mais qui est performant en Ligue des Champions. Le Milan AC qui remporte la première manche face au leader Calcio de la Serie A, le Napoli. Donc, les Italiens veulent en tout cas créer la surprise cette saison, puisque là, vous en savez très bien, le Real Madrid est encore présent au niveau des quarts de finale. Il y a le redoutable favori Manchester City qui a écrasé bien évidemment le Bayern de Munich. Donc, face à ces tauliers de l'Europe, les clubs italiens vont essayer de se créer, de s'effrayer un chemin pour aller jusqu'en finale. La bonne nouvelle est que il y aura forcément un club italien en finale, puisque si l'Inter confirme sa victoire du match aller contre les Portugais, il affrontera forcément un autre club italien entre le Naples et le Milan. Et donc forcément, on aura un club italien en finale. Attention à ces clubs italiens, puisque tactiquement, c'est le football qui est le plus met en place des tactiques de jeu difficiles aux attaquants de s'enfuir directement. Donc vous imaginez, attention à ces clubs italiens qui tactiquement sont très forts. C'est vrai, d'aucuns diront que bon, il y a le Real Madrid, il y a Manchester City, mais parmi ces deux clubs-là, un ira en finale et va affronter forcément un club italien. Si l'Inter va en finale avec ce football-là, ce sera une équipe très difficile à manœuvrer.
Merci, Élisée. Jules, vous suivez la Champions League, les joueurs africains qui évoluent dans ces équipes, qui est le joueur qui a la chance, disons, de continuer la compétition. Élisée disait tout à l'heure qu'il y aura une équipe italienne en finale. Moi, je dois dire qu'on aura peut-être deux équipes en demi-finale. Et il y a le Nigérian qui joue dans l'équipe de Naples, mais qui a été quand même battu par l'AS Milan pendant le match aller.
Oui, il faut dire que déjà la présence de trois clubs italiens montre qu'il y a un retour en force de l'Italie après avoir gagné le dernier Euro, et où on a vu des équipes comme Sassuolo, Atalanta, Lazio ou Naples fournir l'essentiel de l'effectif à la place des équipes défensives comme la Juventus ou la Roma dans le passé. Donc l'Italie a présenté un autre visage et maintenant on voit que c'est un championnat profond qui est réellement en pleine mutation et c'est vraiment bien pour l'équilibre du football en Europe qui était tiré un peu plus vers l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Bon, alors donc, dans cette configuration, les joueurs africains qui jouent en Italie et sont à féliciter. Nous avons d'abord le gardien de l'Inter, Onana, qui est un des meilleurs gardiens du monde au pied et qui sait sortir, qui sait jouer avec sa défense comme un joueur de champ et qui sait conduire aussi sa défense. Et je crois qu'il joue un grand rôle dans le jeu de chat à la souris que son équipe mène souvent contre l'adversaire du jour. Et c'est un jeu-là qui lui a permis de museler complètement Benfica, pourtant désigné comme un favori. Bon, mais à côté, nous avons de l'autre côté le choc entre Milan AC et Naples. Et Zambo Anguissa a été exclu pendant le match dans l'équipe de Naples. Naples, qui est mené, cherchera sûrement à remplacer ce milieu défensif par un milieu offensif et chercher à remonter le score face au Milan AC. Mais il faut dire que le Milan AC est de retour et en plus a un motif pour essayer de tout faire pour arriver le plus loin possible, comme le Brésil pendant la Coupe du Monde où Pelé était alité. C'est le président et le propriétaire pratiquement emblématique du Milan AC, et Berlusconi, qui est dans une phase sanitaire inquiétante et dont les joueurs auront à cœur de lui offrir un trophée ou d'aller le plus loin possible. Je crois qu'il faudra faire attention à ce Milan.
Amédine, il y a Sadio Mané qui joue pour le Bayern qui doit recevoir Manchester City, un match très très compliqué. Il faudra remonter 3 buts pour pouvoir se qualifier, et Sadio Mané qui est en difficulté actuellement.
Oui, vous avez parfaitement raison. Non seulement son club, le Bayern, est en mauvaise posture, hein. Perdre 3-0 au match aller, c'est déjà quelque chose. À cela, il faut ajouter l'incident qui s'est produit après le match où Sadio Mané a donné un coup à son partenaire Leroy Sané. Cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est vrai que c'est un comportement qu'il faut condamner, puisque la violence, il faut la condamner, surtout au niveau du sport, ça ne se justifie pas. C'est vrai que Sadio Mané est mal en point, puisque Sadio Mané n'a plus marqué depuis le 29 octobre. Il est resté 8 matchs sans inscrire le moindre but avec le Bayern. Depuis son retour de blessure, il n'a pas encore fait trembler les filets. Peut-être que ceci explique cela, son comportement, mais ce n'est pas une raison. En tout cas, il faut le dire, le Bayern est en ballotage défavorable face à cette équipe de City qui allie le spectacle et l'efficacité avec un joueur phénoménal, Alan, qui marque but sur but, et aussi à côté de ce joueur qui marque but sur but, il y a des joueurs vraiment qui font tout pour que cette équipe joue le football qu'on aime. C'est le football à la Guardiola, c'est le tiki-taka que le Barcelone faisait du temps de Guardiola. Donc je vois mal comment le Bayern de Sadio Mané fera pour s'en sortir, mais comme on est en football, rien n'est impossible et la remontada est en mode. On va attendre, comme disent les Anglais, Eric Wetensi, mais je pense que le Bayern est très mal en point et le Bayern, je vois mal le Bayern sortir de ce match face à City.
Amine, est-ce que c'est votre point de vue aussi? Est-ce que le match est déjà plié entre Bayern et Manchester City?
Eric, je rappelle que Manchester a marqué des moments importants de la rencontre et pendant très longtemps, le Bayern n'avait pas eu à démériter. Le Bayern avait eu ses opportunités, mais City avait su, dans le money time, faire la différence. Il y a eu le but de Rodrigo, la frappe dans la lucarne. Il y a eu aussi le fait que Upamecano a été très généreux avec Manchester City et a permis, sur une de ses erreurs, aux Citizens de doubler la mise. Et puis, City avait fini en roue libre. Aujourd'hui, c'est une avance considérable, mais non impossible. Mais, la faiblesse ou le talon d'Achille du Bayern Munich se situe dans l'extra-sportif. L'incident entre Mané et Sané, le fait que l'équipe ne tourne pas bien depuis quelques semaines, il y a eu donc le limogeage de Nagelsmann, l'arrivée de Tuchel, et puis la potion magique de Tuchel n'a pas pris, hormis peut-être la victoire lors du classique du football allemand contre le Borussia Dortmund. Sur les 5 matchs disputés sous la houlette de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain de Chelsea, et il y a eu quand même 3 matchs sans victoire. Donc beaucoup d'interrogations sur une équipe du Bayern Munich qui est déjà en ballotage défavorable et qui pourrait être sortie de la compétition par l'épouvantail numéro 1 de cette Champions League, Manchester City.
Le Bayern Munich qui n'est pas très convaincant. En tout cas, ce n'est plus une machine qu'on voyait en 2020, n'est-ce pas, Amine?
Pas du tout, même si les éléments ou l'ossature qui avait gagné la Champions League en 2020 est là, mais elle a pris de l'âge. Et puis, la mayonnaise n'a pas pris avec le recrutement de Sadio Mané. On comptait beaucoup sur son expérience, sur son talent pour porter cette équipe. Et visiblement, l'élan a été cassé net après sa blessure avant la Coupe du Monde. Depuis lors, il n'a pas justifié le prix de son transfert ni son salaire. Et puis la blessure de Neuer, le gardien de but, qui a aussi, je dirais, un peu compromis les chances du Bayern Munich, qui, loin d'être la machine implacable qui avait marché sur la Champions League en 2020, avec notamment cette victoire historique sur le FC Barcelone en quart de finale sur le score de 8-2. A priori, Manchester City est un ton au-dessus. Et preuve en est le fait que, même en Première Ligue, City est en train de profiter des cadeaux et des défaillances d'Arsenal pour pouvoir recoller en tête et pourquoi pas briguer un doublé Champions League et Premiership.
Jules, le Real contre Chelsea. Chelsea a une paire de manches, n'est-ce pas? Deux buts à remonter, ce ne sera pas facile. Et Chelsea qui est très en difficulté en championnat.
Mais déjà rencontrer le Real en Ligue des Champions, c'est pas une sinécure. C'est une équipe qui se transcende et en fait mute pratiquement. Et quand cette compétition commence, une véritable machine insubmersible. Bon, mais là, Chelsea le rencontre dans des conditions très difficiles. Vous savez que Chelsea a gagné la Ligue des Champions il y a deux ans avec l'entraîneur Tuchel, et qui avait réussi à mettre du mouvement autour de N'Golo Kanté, à qui il avait donné une autre dimension, parce que N'Golo Kanté, le briseur d'attaque, était devenu en fait l'accélérateur de l'équipe de Chelsea qui bougeait dans tous les sens. Mais Tuchel a été remercié pour un problème d'humeur et jusque-là, et à partir de là, avec la blessure également de N'Golo Kanté, Chelsea a pris de l'eau. Et ce n'est pas le retour de Lampard où on croyait que Lampard allait apporter sur son banc un électrochoc pour relever un peu l'équipe. Ce n'est pas ça qui vraiment va favoriser et peut-être Chelsea pour une remontada au match retour. Et je pense que si l'équipe de Chelsea réussit déjà à ne pas perdre la seconde rencontre, ça peut lui servir à remonter en championnat et éviter le stress des dernières journées du championnat où les mal classés vont chercher à gagner les matchs contre ce grand nom.
Amédine, on peut se poser la question de savoir ce qui est arrivé à Édouard Mendy.
Bon, rien n'est arrivé à Édouard Mendy. C'est un coach qui est arrivé et qui a fait son choix. Pour lui, Kappa devait faire l'affaire. Mais bon, si on regarde les résultats, bon, c'est pas parce que je suis sénégalais, hein, mais Kappa ne fait pas l'affaire. Maintenant, on est en sport, les choses vont vite, puisque l'attention d'Edouard Mendy a été plus grande aussi, il faut le dire. Mais maintenant, c'est la descente aux enfers, c'est comme ça en sport. Et maintenant, il doit travailler, il est en train de travailler. Il avait eu une blessure, maintenant il est guéri, il est sur le banc. C'est à lui de se battre pour pouvoir prendre la place de numéro 1, parce qu'en sport, surtout en haut niveau, c'est comme ça. C'est difficile, mais il faut gérer ces genres de situations, Eric.
Élisée, pronostic, il nous reste moins d'une minute.
Bon, logiquement, logiquement aussi, papier, Manchester devait passer, même si ça va être un match très très compliqué, hein, puisque en Bavière, ça ne badine pas. Le Real aussi devrait faire pareil, hein, contre Chelsea, malgré les deux buts. Maintenant, l'Inter aussi devrait passer. C'est le seul match qui aura plus d'intensité, c'est bien sûr Naples contre le Milan. Ce petit score, est-ce que ça pourra avantager le club Rossonero? On le saura bien sûr demain.
Merci Élisée, merci à Jules Valentin Gouet, merci à Amédine Sy et à Amine Birouk, nos consultants sportifs. Merci de vos contributions respectives dans Sporama. Eric Manilakis a été avec vous à la présentation. Lionel Lunanela Gahima a assuré la mise en onde. dans quelques instants la troisième édition du Monde aujourd'hui avec Mohamedou Oumfa.